I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quand on apprend à marcher, on tombe sans arrêt, quoi. Et on se plante, c'est autant d'échecs, et au final, on marche. Quand on parle, c'est pareil. Quand on apprend à parler, bah quand on fait de l'illustration, c'est pareil.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Claes, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyClaes. Ça s'écrit Jérémy IE à la fin, Claes CLAEYS en un seul mot. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. En anglais, ça donne Creative Pep Talk helps you build a thriving creative career. En français, ça sonne un petit peu moins bien, mais en gros, on pourrait dire que la mission de Creative Pep Talk est d'aider les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant d'un point de vue business. Mon podcast s'inscrit d'une certaine manière dans la lignée de celui d'Andy, d'où cette étroite collaboration entre nos deux podcasts. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que je pourrais raconter n'importe quoi ici, Andy ne comprend pas un mot de français. Je pourrais dire que Creative Pep Talk vend des bananes, que cela ne changerait rien à ma relation avec ce dernier. Mais vu qu'on se fait confiance, bah pas de souci. Ben oui, Andy n'est pas juste un sponsor, mais aussi un ami. Après plusieurs années de correspondance par email, d'écoute de son podcast, je l'ai finalement rencontré l'été dernier lors de mon premier voyage aux USA. Et autant vous dire qu'entre nous, c'était le feu. Discussion à gogo, Andy et moi sommes clairement sur la même longueur d'onde. D'où la naissance de ce projet de podcast. Vous l'aurez compris, si vous comprenez l'anglais, allez écouter Creative Pep Talk. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Voici donc le deuxième épisode de ce podcast et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ma discussion avec Claude. Claude est illustrateur à Paris et comme il le mentionne sur son site internet, son univers frais et coloré respire la bonne humeur et lui permet d'illustrer à peu près tout de façon sympathique. Et c'est carrément vrai. Ses images joyeuses et un brin nostalgique vous donneront à coup sûr le sourire. D'ailleurs, Claude n'en loupe pas une pour illuminer vos journées d'illustration. Très actif sur les réseaux sociaux, pas un jour ne passe sans qu'un dessin de Claude ne croise mon chemin. Si vous voulez vérifier, ajoutez-le sur Facebook, vous verrez bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, via les réseaux sociaux. On s'est vite rendu compte que non seulement on partageait pas mal de références et d'influences graphiques, notamment Derek Yeniger, Jim Flora, les 50s et les 60s en général, mais également qu'on était hyper habités par cette passion du métier d'illustrateur, et Claude peut en parler très très abondamment pendant des heures. Et c'est exactement pour ça que j'ai désiré lui poser des questions. Claude travaille pour la publicité, la communication, la presse et l'édition. Sa liste de clients comprend Le Parisien, EDF, la Banque de France, Pellerin, 60 millions de consommateurs, les éditions Erol, Hachette, l'imagerie d'Épinal et des dizaines d'autres que je vous invite à découvrir par vous-même. Dans ce second épisode, nous découvrons comment un électrotechnicien reconverti en dessinateur de BD finit par découvrir l'illustration et décide de tout miser là-dessus et de tout recommencer à 30 ans. On discute de sa vision de l'échec, de l'importance de la passion comme moteur pour son travail, de son style entre guillemets « gentil et naïf » et de ce que cela signifie pour lui, comment un projet personnel l'a amené à travailler régulièrement pour Le Parisien, et pour finir, nous élucidons le mystère du tabouret à trois pieds. Tout un programme. Voici donc ma discussion avec Claude. Bonne écoute. Voilà, ça y est, c'est parti.
Ouais, c'est parti.
Eh ben, Claude, merci de t'être rendu disponible pour cette interview.
Ouais, je t'en prie.
Ça me fait vraiment plaisir parce que toi et moi, on se connaît depuis un petit bout de temps. On s'est rencontrés parce qu'on a la même passion, l'illustration. Alors évidemment, on a un petit peu les mêmes références graphiques. On a un petit peu tout ça qui nous a rapprochés. Et il y a aussi cette passion du métier. Je sais qu'avec toi, on peut en parler pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures. Mmh. C'est ça qui m'a poussé vraiment à vouloir t'avoir sur ce podcast. Donc, merci encore à toi.
Je suis hyper content. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'était rencontrés, on avait passé, rappelle-toi, une soirée dans un bistrot en terrasse un été là. On avait papoté pendant 2 heures, 3 heures. Je m'en souviens plus. On n'arrivait pas à décrocher quoi.
C'est vrai.
On parlait du boulot.
On se connaissait pas. Ouais. On se suivait un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis j'avais posté un article sur mon blog à l'époque. Et tu m'avais dit genre ah si à l'occasion tu passes par la capitale, on pourrait se faire une bouffe. Et puis je t'ai dit non mais en fait j'habite dans la capitale. Et je pense que le lendemain ou le soir même, on...
Oui. Et... Je me rappelle très bien, ouais. Je me rappelle de cet article.
Ouais.
Ouais, ça m'avait parlé parce que tu parlais d'un truc assez sensible. Et je me disais, mais personne m'a jamais rien dit de cette sorte. Enfin, je trouvais ça que c'est, enfin, ça représentait vraiment ce que je ressentais. C'était, je me suis dit, ah ouais, ce mec, il pense comme moi, quoi. Il ressent comme moi. Voilà, c'était marrant.
Je sais, c'est exactement quel article. C'était l'article sur la perfection.
La perfection.
C'était Perfect is Boring. Et j'avais fait une illustration, d'un petit bonhomme un petit peu mal dessiné et tout. Et que j'avais envie vraiment d'un peu, lâcher ce côté un peu perfectionniste, ce côté un peu trop sage.
Ouais, ça,
et je sais qu'on se retrouve dans cette bataille au final.
Ouais, ouais.
Voilà, je pense que notre discussion a commencé par ça.
C'est vrai, ouais. Ouais.
Ouais. Du coup, Claude, la question avec laquelle je commence avec tous mes invités, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ?
Ah bah mon boulot, hein, tout simplement. Hein. Je suis un passionné, quoi. C'est la passion. Ouais, je suis animé par la passion de l'illustration, de l'image en général, mais de la passion particulièrement. Ouais, c'est mon moteur. C'est, tu vois, pour moi l'illustration c'est comme une bagnole. Et tu peux avoir une belle bagnole, une Ferrari, si t'as pas d'essence, t'iras nulle part. Voilà. Et moi j'ai l'essence, c'est la passion. Alors j'ai une bagnole qui vaut ce qu'il vaut, mais j'avance, quoi. Et avec quand t'as l'essence, tu peux aller n'importe où, hein.
Mais c'était une de mes questions, ça. C'est genre, c'est quoi ton carburant ?
Ah ben, carburant, c'est la passion. Okay. C'est la passion. Je suis un passionné. Alors je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Moi, je pensais au début que quand tu faisais ce métier, ou n'importe quel métier d'ailleurs, il suffisait de bosser comme un taré. Là, tu te lèves le matin, tu bosses jusqu'à ce que tu te couches le soir, et puis entre-temps, t'as avancé parce que t'as tellement bossé que de toute façon, t'avances, quoi. Mais bon, après, je me suis rendu compte que bosser, c'est bien, quoi. Bosser, ok, t'avances. Mais si t'as pas le moteur derrière pour te pousser à bosser, tu bosses pas, quoi. Donc finalement, je pense que c'est la passion, ouais, plus que de bosser. Bah, bien sûr, si tu bosses et que t'as la passion, tu vas super loin, quoi. Mais bosser, ça suffit pas.
C'est quoi cette quête, alors? C'est quoi cette passion?
Ah, la passion, j'en sais rien, hein. D'où ça vient, je sais pas.
Bon, merci Claude.
non, je sais pas, je me suis posé longtemps la question d'où ça vient. D'où ça vient? Non, j'ai une petite idée en vrai. Hein. J'ai une petite idée.
On peut du coup aller repartir en arrière. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous parler de ton arrière-plan, de ce qui t'a amené vers l'illustration?
Ouais, j'ai toujours aimé dessiner de toute façon. Bon, je suis autodidacte. Hein. Donc j'ai fait des études de technicien. J'ai eu un BTS électrotechnique. J'ai bossé en entreprise comme technicien pendant 8 ans. Et puis à 25 ans, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que tu, c'est pas ton truc là, tu t'emmerdes, c'est pas ta vie ça. C'est, je continue à dessiner. Et j'ai un pote photographe qui me dit un jour, ah, t'aimes bien dessiner toi, ouais. Et tu déprimes à moitié dans ton boulot, ouais. Et pourquoi tu vivrais pas de ta passion du dessin. Ah attends, j'avais pas pensé à ça. Donc de 25 à 30 ans, j'ai tout mis en place pour devenir illustrateur, plus précisément dessinateur de bande dessinée.
Okay.
Ouais, c'était ça mon...
Alex Formica, c'est ça ?
Non, c'était même pas ça, c'était Claude.
Ah, Claude. Okay.
Ouais, Alex Formica, c'est un autre truc, je te raconterai après.
Ah, ok, très bien.
Non, dessinateur de bande dessinée, et puis 30 ans, en gros, je me suis lancé comme auteur de bande dessinée...
Attends, mais qu'est-ce qui t'a mené vers la bande dessinée d'abord ?
Alors, la passion de la bande dessinée, parce que j'en lisais. Mais au fond, j'ai une autre théorie là qui est depuis peu. C'est un peu personnel. Hein. Je pense que quand t'es passionné comme ça, c'est que derrière il y a une faille, un truc à combler.
Ok.
Un truc à combler, une faille dans ta personnalité, un truc qui t'est arrivé ou un truc dans ton histoire. Enfin, pas forcément grave, hein, mais je pense que moi, je suis devenu illustrateur, pas parce que j'aime le dessin, mais simplement parce que j'ai un besoin de reconnaissance énorme. Et quel autre métier, qu'artiste, entre guillemets, peut combler ce besoin, hein. C'est une quête sans fin, hein, c'est insoluble, hein, comme quête. Hein. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment le fond de ma passion, le moteur du moteur, quoi. C'est de là que vient je pense, hein. Après, j'en suis pas certain, il faudrait que je m'allonge sur le divan. Mais bon, au bout d'un moment, à force de réfléchir, tu commences à...
Mais tu as dit que c'était quelque chose de relativement récent. Tu t'es rendu compte de ça il y a pas longtemps.
Ouais, je me suis rendu compte de ça, mais il y a pas longtemps. Mais en réalité, je trimballe ça avec moi depuis, depuis ma naissance.
Et c'était difficile de le reconnaître ?
Non, pas du tout. Non. C'est même presque pas jubilatoire, mais c'est, t'as l'impression d'avoir ouvert une porte, quoi. Te dire ah ouais. Tu te dis ah ouais, d'accord, j'ai pigé là. C'est ça en fait.
Mais donc tu bossais dans l'électrotechnique.
Ouais.
Et jusqu'à 25 ans, c'est ça ?
Jusqu'à 30 ans, parce qu'en fait de 25 à 30 ans, je suis resté dans ce milieu-là, mais j'ai préparé doucement mon entrée dans le monde de l'illustration, de la bande dessinée. Mais
ça s'est passé comment ça ?
Bah en gros, je suis passé d'un plein temps à un temps partiel, à un mi-temps. Et en fait pour pouvoir faire de la bande dessinée à l'époque, j'avais développé un book pour avoir des boulots de commande, parce qu'en fait faire de la BD comme ça c'est difficile d'en vivre. Donc tout le monde me disait à l'époque tu fais un book, tu fais de la commande en illustration et puis après quand t'as le temps tu développes tes bouquins, tes projets d'album, voilà. Et alors ce qui est marrant, c'est que après quelques albums, j'ai fait trois albums et puis des collectifs, j'ai fait plein de projets de bande dessinée tout ça, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que je m'éclatais 10 fois plus à faire des boulots de commande d'illustration qu'à faire des bandes dessinées. Et là, j'ai arrêté la bande dessinée.
Et est-ce que tu dirais que c'est parce que la gratification dans l'illustration, elle est beaucoup plus immédiate, c'est-à-dire qu'un boulot de commande en illustration, c'est beaucoup plus rapide qu'un album de bande dessinée qui prend quand même, je sais pas, minimum un an, un truc comme ça. Et du coup, t'as tous les bravos et tout au bout d'une année. Est-ce que, peut-être je me trompe,
oui.
Hein, mais
je pense que c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que l'auteur de bande dessinée, enfin, quand tu fais un bouquin, bon, t'es embarqué pour 6 mois, 1 an et tout, et en fait, c'est trop long pour moi. Ça correspond pas du tout à mon tempérament. Moi, j'ai un tempérament, il faut que ça bouge, moi, il faut que je fasse 10 illustrations dans la semaine. La bande dessinée, c'est pas pour moi, c'est un travail de moine. Ouais. Je suis pas un moine. Moi, j'ai besoin que ça pulse, que je change de projet tous les jours. C'est en ça que je m'éclatais plus en illustration. Ouais, il y a plus de contraintes et tout ça, mais ça correspondait plus à mon tempérament.
Je m'y retrouve complètement.
Je pense que justement, la bande dessinée, c'est plus gratifiant.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais.
Pour comment moi, ça ?
Tu laisses des bouquins, quoi. Enfin, tu fais de la bande dessinée, tu laisses des bouquins. Les gens sont là avec les livres et tout. Pour moi, le livre, c'est quand même un objet. C'est hyper important, quoi, pour moi, dans ma vie. C'est plus important qu'une pub ou je sais pas, moi, une couverture d'un magazine qui va tomber à la poubelle dans 6 mois, personne.
Mais dans ton travail d'illustrateur, t'as fait tes petits livres, auto-édités d'ailleurs.
Ouais, à côté, ouais.
Donc, du coup, c'est une sorte de compromis, quoi.
Exactement.
Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus ?
Dans le boulot d'illustration, tu réponds à des commandes, hein, donc t'es sans cesse contrainte. Quand on te dit bleu, faut que tu fasses bleu, quoi. Hein. Quand on te dit tu mets un mec là, enfin, c'est bourré de contraintes, quoi. Voilà. Donc à côté de ça, t'as besoin d'avoir un peu une cour de récré. Moi, ma cour de récré, c'est de faire des projets perso. Alors c'est des bouquins, des tirages d'art, où là t'as 100% liberté. Hein, tu te fais plaisir. Hein. Et puis ça nourrit aussi ton boulot de commande. Voilà. Tu fais des essais, tu fais des trucs qui te font plaisir dans les boulots dans les projets perso, et puis à côté tu balances ça dans la commande. Et voilà. Ça m'est même arrivé d'avoir des boulots de commande quand les gens ont vu mes boulots perso, en disant ah ouais, c'est ça que je veux. Et là tu te dis ah ouais, génial. Ouais, c'est marrant, quoi, en fait. Ça se nourrit, c'est une sorte d'équilibre. Comme tout, hein, tout dans ce métier, c'est que de l'équilibre. On est des équilibristes. Hein.
Tu l'as trouvé l'équilibre ?
Non, jamais. Mais en même temps, ça serait peut-être un peu chiant d'être vraiment en équilibre. Là, je suis peut-être un peu trop en équilibre.
Ah ouais, comment ça ?
Tu sais, quand tu marches, à chaque fois, t'as un petit moment de déséquilibre que tu rattrapes avec le pas suivant.
Mais qu'est-ce qui pourrait te mettre en danger pour...
Voilà, c'est ça. Et si t'es bien stable, tu bouges pas et tout, t'as pas besoin d'équilibre. Hein, tout est statique et tout. Tu t'emmerdes un peu, non ?
Donc tu dirais que t'as trouvé une sorte de rythme de croisière aujourd'hui ?
Ouais, je pense que c'est ça, rythme de croisière, et puis de temps en temps...
Mais que final, c'est une bonne chose quand même, c'est quand même beaucoup d'illustrateurs quelque part, enfin, beaucoup de gens recherchent cette sorte d'utopie au final.
Ouais, alors je te rassure, hein, je suis pas content de mon sort. Hein. Non, enfin, entre guillemets, attends, tout va bien, hein, le jour où je serai content, il faut que j'arrête, et puis c'est tout, quoi. Voilà.
Éternel insatisfait ?
Exactement.
Et... D'ailleurs, je sais, parce que je te connais depuis quelques années, que de toi-même, tu dirais que tu es une sorte d'éternel angoissé qui se remet en question constamment, ouais. Qui est constamment insatisfait, etc. Pourtant, quand on regarde ton travail, c'est tout le contraire. Et je sais que tu le revendiques complètement, c'est-à-dire que ton travail, il est joyeux, il est positif, il est, on pourrait même parfois le qualifier de naïf. Et je sais que c'est quelque chose qui t'a chiffonné pendant une période. Et il me semble quand même que c'est quelque chose avec laquelle tu as fait la paix dernièrement. Et c'est même presque ton mantra, quoi, dans ton travail, c'est tu veux apporter un peu de bonheur, un peu de joyeuseté, je sais pas si ça se dit,
oui,
dans la vie des gens. Et mm-hmm. Du coup, est-ce que tu peux développer un peu cet aspect-là?
Ouais, bah, en fait, effectivement, t'as raison, hein, ça m'a chagriné un peu. Mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je faisais des trucs un peu graphiquement proches de l'expressionnisme allemand. Tu vois, je faisais des albums de BD, c'était hyper noir, c'était très angoissé. Toi, ça correspondait à ce que je ressentais et ce que je ressens au fond de mon cœur. Hein. Un truc, moi, je suis un peu misanthrope. J'ai pas du tout confiance dans la nature humaine. Quand tu vois l'état de la planète, tu te dis ouais, ok, bon, l'homme est capable du pire et du pire, et il le fait d'ailleurs. Mmh. Et je vois tout de suite les problèmes, le mauvais côté des choses. Tu vois, je suis pessimiste en réalité. Et quand t'es pessimiste et que tu bosses en illustration ou en bande dessinée et que tu fais du pessimisme, en fait, tu nourris la bête, quoi. C'est terrible. Et je sortais de là-dedans, moi, j'en pouvais plus, quoi. Le monde est noir, tu fais du noir. Je pouvais pas exorciser tout ça, quoi. Et c'est les boulots de commande, finalement, qui me disent « Ah non, mais attends, les sorcières, t'arrêtes, là. Hein. T'arrêtes les sorcières, là. Hein. Les monstres et les sorcières, t'arrêtes, là. Tu me fais des gens heureux, là. » Alors, ça me faisait chier, quoi. Ça me disait « Mais j'ai pas envie, ça correspond pas du tout. » Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que, putain, faire des gens heureux, eh ben écoute, pourquoi pas, quoi. Et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, en fait, de dessiner des oiseaux, des fleurs, enfin, des trucs un peu naïfs, quoi. Hein. Ouais, et ça me faisait du bien. Alors je me suis dit, mais en fait, faire des trucs noirs, des satires ou des critiques, il y a des gens qui le font ça super bien dans les magazines, genre Charlie et tout, mais c'est pas mon truc, quoi. Je peux pas, si je fais ça 6 mois, je vais faire une dépression nerveuse, quoi. Déjà que je suis pessimiste, alors... Donc non, je me suis mis là-dedans, ça me faisait plaisir, je me faisais du bien moi. Voilà, donc je me suis dit tiens, alors je voyais bien quand même que faire du bien, en faisant du bien à moi, je faisais du bien aux autres aussi, et que finalement un mec comme Prévert par exemple, qui m'inspire beaucoup, et sous ses airs de mec un peu naïf, quelque part il fait du bien aux gens, mais en même temps c'est pas si naïf que ça, quoi. C'est pas si naïf que ça. Et ouais, pourquoi pas faire du bien aux gens, un quart d'heure, tu vois, le temps d'une pause,
d'ailleurs,
d'un café.
C'est quelque chose qui est super marquant dans ton travail, c'est que t'es hyper régulier. T'es tous les matins, si on va sur Facebook, si on va sur Instagram, si on va sur Twitter, il y a la petite illustration du matin de Claude qui est là toujours, régulièrement, qui met le petit sourire aux lèvres, le petit baume au cœur. Et c'est moi personnellement, ce qui m'impressionne chez toi, c'est cette discipline, c'est cette rigueur, c'est cette production, en fait. C'est vraiment ce côté, genre... peut-être que tu vas me dire que t'es pas si discipliné, j'en sais rien, tu vas me dire. Après, je te connais un petit peu, je sais que t'es discipliné, mais... t'as une production incroyable. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu as une routine particulière pour réussir à être aussi présent et rigoureux tous les jours? T'es là au poste, prêt à dégainer une image pour donner la banane aux gens, quoi.
Ouais. Ah, je sais pas, ouais. Je crois que c'est dans ma nature, hein. C'est dans ma nature, je suis organisé, je suis perfectionniste, j'ai besoin de routine, j'ai besoin de... Même ma journée, elle est comme ça, hein, j'ai plein de, comment on appelle ça, des rendez-vous tous les jours.
Ah, des rituels.
Ouais, des rituels, voilà, c'est ça.
Ça te sécurise?
Ah, ça me sécurise, hein, je suis comme ça, ouais. Je suis comme ça, tu vois, à 5 heures, je bouffe une pomme, tu vois. C'est con, mais là, c'est...
Ouais, mais ça te donne...
Ouais, ça donne le rythme à ma journée, quoi. Mais ça me...
Mais il ressemble à quoi, ton rythme? Donc, à 5 heures, tu manges une pomme?
Ouais, alors, en gros, hein, je veux dire, en gros, je fais des journées, on va dire, je commence à 8 heures le matin, 8 heures et demie, entre 8 heures et 9 heures le matin, mais plutôt vers 8 heures et demie, et je termine à 19 heures, à peu près, dans le rythme normal. Après, je peux tarder le soir si j'ai des gros boulots ou... Je bouffe en 1 heure le midi, 3/4 d'heure, 1 heure, pareil, quoi. En gros, bah, ça commence comme ça, le matin, 1 heure de réseaux sociaux. Alors, je balance tout. Twitter, LinkedIn, Facebook, Insta, je mets mon site à jour, je réponds aux commentaires, enfin, voilà, quoi, ça, c'est 1 heure de, c'est la promo, quoi, un peu, hein. C'est voilà, une heure. Ensuite, le matin, c'est plutôt je cherche les idées. Quand j'ai des idées, c'est plutôt le matin. Donc c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'heure bleue en fait. C'est ouais, l'heure bleue, c'est là où le moment où t'es le plus frais, où tu trouves les idées plus facilement. Hein. Et l'après-midi, c'est production. Hein, je fais les couleurs. Ça c'est idéal. Hein. Mmh. Après, quand le Parisien il t'appelle, tout vole en éclats et
on annule tout.
On annule tout, on recommence. Enfin, tu prends. Enfin, voilà quoi. C'est
sûr qu'il faut être hyper flexible dans ce métier, ouais. Enfin, surtout pour les boulots de presse, quoi. Mmh. C'est genre t'as parfois 24 heures, allez 48 heures max pour rendre le truc. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment avoir une belle flexibilité. Pour,
ouais, faut être flexible, mais en même temps les rituels c'est bien. Hein. Ça permet d'avoir un bon rythme. T'as pas de rituel, tu te lèves à 10h le matin, t'as pas de boulot, tu te lèves à 10h le matin.
Et genre. Tu t'es rendu compte de quand que tu fonctionnais comme ça, de ces rituels? Parce que j'imagine quand même qu'il y a une certaine quête de soi, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte au fur et à mesure des années que tu fonctionnais comme ça et que quand tu fonctionnais comme ça, ça te sécurisait, ça t'aidait à produire. Mmh. Tu peux me parler un peu de ce...
Comment c'est venu en fait?
Ouais.
Bah, c'est simple, hein. En fait, après 8 ans de boulot en entreprise où tu étais là à l'heure et tu pars à l'heure, quand tu commences à être tout seul chez toi... Tu te dis, si je fais pas ça, je vais me noyer, quoi. Donc, c'est venu de là, simplement. J'ai repris les rythmes du boulot que j'avais à l'époque et je me disais, t'es boulot ou pas boulot, commande ou pas commande, à 8h30, t'es au taf et puis tu décroches pas avant 17h, quoi. Hein, c'est tout. Hein. De toute façon, t'as toujours du taf. T'as toujours des trucs à faire.
Et t'es pas tenté quand t'es chez toi de faire le linge ou de faire un autre truc ou...
Si, c'est partie du rituel.
Ah, ouais, c'est... Ouais. T'as un rituel linge?
Ouais. Ouais, bien sûr. Tel matin, avant les réseaux sociaux, je balance la lessive. Après les réseaux sociaux, la lessive est finie. Je fais ma pause, j'ai le temps de linge.
Ah ouais?
Ouais. Et puis après, bah, je retourne au boulot. Ouais, à 13h, je décroche, je bouffe. Et puis après, 14h, je reprends le truc, quoi.
D'accord.
Ouais.
Intéressant. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais du Parisien qui t'appelle. Ouais. Mmh. Et justement, on parlait tout à l'heure aussi de ton univers très joyeux, voire naïf. Mais quand on observe ton travail, on se rend bien compte que tu dessines pas que des soleils et des petits oiseaux.
Non.
Tu traites des sujets beaucoup plus graves, comme prenons le viol, la prostitution, le terrorisme, oui. Notamment pour le Parisien. Donc l'un n'empêche pas l'autre.
Déjà. Non.
Et je sais que tu as notamment décroché ce projet régulier pour le Parisien. Ça fait un an et demi que tu bosses avec eux, c'est ça, hein ?
Ouais, ça va faire 2 ans bientôt, là. Ouais.
Bientôt 2 ans.
Un an et demi, ouais, c'est ouais. Ça.
Et c'est suite, c'est là que je fais une autre boucle avec quelque chose dont on a déjà parlé, d'un projet perso, les malheurs de Tati Yvette, hein, c'est comment ?
Ouais, le calvaire de Mamie Yvette.
Voilà.
Le calvaire de Mamie Yvette.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
Ouais, bien sûr. Alors, parmi les projets perso dont je parlais tout à l'heure, il y avait ce projet d'illustrer des faits divers que je voyais passer dans le Parisien. Voilà. Alors, je voyais passer des faits divers dont les titres étaient hyper drôles. Ça me faisait rire, mais alors pas tous, hein, parce qu'il y a des trucs hyper tragiques quand même. Mais il y avait des trucs marrants comme il saute du toit dans la piscine et il meurt. Il s'était pas rendu compte qu'il y avait pas d'eau. Des trucs comme ça. Enfin, c'est de cet esprit-là, mais ça me faisait rire parce que là, en plus le Parisien dans les titres pas racoleurs, mais il y a toujours un petit décalage. Tu vois, c'est pas sérieux. Voilà. Bon, bref, ils aiment bien. Et moi, ça me faisait rire. Et je m'étais dit, ah ouais, à partir du titre, je voyais bien tout de suite l'image, quoi. Donc pendant deux ans, comme cours de récré, je prenais les faits divers du Parisien et je les illustrais comme ça pour moi. Et puis au bout de 2 ans, j'avais une cinquantaine de faits divers et je m'étais dit ah ouais, ce serait sympa d'en faire un bouquin. Et j'ai contacté le Parisien, voilà, en disant voilà, ça fait 2 ans que discrètement dans mon petit coin j'illustre vos faits divers et puis je me dis on pourrait faire un bouquin ensemble, un partenariat. Donc vous pourriez, j'en sais rien, participer au financement et puis offrir ça à vos clients, j'en sais rien. Enfin, j'ai un peu cherché, si tu veux, le moyen d'éditer un bouquin avec eux. Alors ouais, ils ont trouvé ça super. Mais leur boulot parisien, c'est de faire un journal, c'est pas de faire des bouquins, quoi. Donc je voyais bien qu'ils étaient au taquet tout le temps, qu'ils répondaient pas à mes mails, qu'ils disaient ouais super. Mais qu'à côté, alors j'ai fait le tour des journalistes, des personnes qui s'occupent du partenariat. Et puis, au bout de 6 mois, je voyais qu'il y avait toujours rien de fait. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse ce bouquin quand même. Et puis je me suis dit, tant pis, je vais le faire tout seul. Tant pis, je vais l'auto-éditer. Mais il y avait un journaliste au Parisien qui avait soutenu le projet, Nicolas Jacquard, Il m'avait dit, ah, c'est génial et tout. Je vais essayer de le vendre aux Parisiens, ton bouquin. Bon, il a pas réussi. Et j'avais dit, bah, écoute, apparemment, on n'arrive pas à faire le bouquin avec le Parisien. Je vais le faire tout seul. Mais par contre, tu me fais la préface. Bon, là, ça faisait déjà 8, 9 mois que le temps était passé, que j'avais harcelé tout le monde et que j'avais rien obtenu, quoi. Alors, Nicolas, il me dit, bah, ok, d'accord, je te fais la préface. Donc, bah, super et tout ça. Avec un copain graphiste, on monte le bouquin. Et puis, bah, arrive au moment, faut envoyer le bouquin chez l'imprimeur. Et puis, bah, Nicolas, toujours pas de préface. Toujours pas de préface. Alors, je lui dis, Nicolas, la préface. Il me dit, ouais, je m'en occupe. Et puis, bah, il m'envoyait pas, quoi. Et puis, la veille d'envoyer le bouquin chez l'imprimeur, je lui dis, écoute, soit tu me fais la préface, ou si tu peux pas, tu me le dis. Et puis, je vais trouver une autre solution. Et voilà, quoi. Alors, il m'a balancé une préface qu'il a fait au coin d'une table. Un truc super, hein. Et le bouquin est parti avec la préface de Nicolas chez l'imprimeur. Et puis bah je récupère le bouquin et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai le bouquin, qu'est-ce que je veux en faire? Il faut que je le vende, quoi. Et bon bah j'en vends aux copains, je fais une soirée de lancement et puis j'en garde quand même une petite vingtaine et je dis à Nicolas, bon, Nicolas, il faut qu'on se voit, j'ai quelques bouquins, t'as fait la préface, je vais t'enfiler, quoi. Il me dit ouais, ok, d'accord, voilà, non, quelques mails plus loin. Toujours pas de rencard, toujours pas de rendez-vous. Ça faisait déjà un an et demi, hein, à partir du moment où... Et puis finalement, il me dit, ouais, bon, ok, là, j'ai un créneau, on va bouffer ensemble et tout. Ok, super, je prends les 20 bouquins, je l'emmène. Et je lui dis, bon, Nicolas, tu prends les bouquins, tu fais la distribution aux Parisiens. Ok, c'est bon, il emmène les bouquins. Deux jours après, le directeur de la rédaction qui m'appelle, il m'a dit, ah, c'est super, on va bosser ensemble. Voilà, donc... J'ai commencé à bosser avec eux, on va dire deux ans et demi après que j'ai commencé à illustrer le premier fait divers. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut ne jamais lâcher et aller jusqu'au bout.
Deux ans au total.
Deux ans, ouais.
Et depuis, maintenant, tu travailles depuis deux ans avec eux.
Ouais, c'est ça, régulièrement.
Une fois par mois, un truc
ouais,
comme ça.
Ouais, une fois par mois, deux fois, ça dépend un peu des... En fait, ils m'appellent quand ils ont des sujets super ardus à illustrer par des photos.
Oui.
Voilà, et...
Ce serait glauque avec une photo.
Voilà, où c'est difficile de trouver des photos. Les sujets sont compliqués. Donc, l'illustration, c'est parfait. Hein, tu uses de métaphores, tu fais des images.
Et t'aimes bien cet exercice?
Ah, j'adore.
Ouais?
Ouais, j'adore. C'est hyper stressant, mais j'adore. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que deux ans après cette première collaboration avec eux, on prépare une exposition de tout ce que j'ai fait pour eux dans les locaux.
Exclusivité pour le podcast.
Voilà, c'est ça, exactement. Je n'ai parlé à personne, vraiment.
Trop bien.
Voilà, donc on prépare une exposition dans leurs locaux. Deux ans de faits divers illustrés. Voilà. Et puis je vais expliquer comment j'ai abordé chaque sujet. Parce que c'est un sujet hyper dur, quoi. La pédopornographie. Enfin, je sais pas quoi, les viols dans les cités, et les mecs qui se font tuer à cause de la drogue, des trucs comme ça, c'est des sujets hyper ardos. Comment tu fais pour illustrer ça? Voilà. Donc je vais expliquer un petit peu ça dans l'expo. Ça sera dans le hall, en principe, si tout va bien.
Et est-ce que avant le Parisien, j'imagine que tu illustrais de temps en temps des sujets sérieux, mais est-ce que c'est quand même, ça s'est plus accéléré avec le Parisien?
Non, pas du tout, non. En fait, ça reste quand même assez. Le Parisien, ça reste un exercice à part, hein, dans mon boulot, quand même. Hein. Parce que le reste de tout ce que je fais à côté, c'est plus des trucs de com, des trucs de presse, mais sur des sujets beaucoup plus, on va dire, techniques ou plus light, hein, ou des trucs d'entreprise ou de management, tout ça, quoi. C'est moins triste, quoi. C'est pas forcément plus simple, mais c'est moins sensible, c'est des sujets moins sensibles.
Ouais.
Le Parisien, ça reste à part. Ouais.
Ça donne un équilibre, quoi.
Ouais, ça donne un équilibre, ouais. Mais j'ai du bol parce que j'ai l'impression que mon approche graphique permet d'illustrer à la fois des...
Plus ou moins tôt de façon sympathique.
Voilà.
C'est ta tagline.
Ouais, c'est un peu ça en fait. Je peux faire le matin une couverture pour un livre jeunesse et puis l'après-midi un fait divers sordide pour le Parisien et puis je sais pas quoi, une newsletter pour le Crédit Agricole. C'est transversal, j'ai un truc transversal.
Et comment t'as fait, donc ça fait 18 ans, si je me trompe pas, que ouais. T'es illustrateur, comment t'as fait pour te diversifier à ce point-là?
Alors là, j'en sais rien. J'assure que je sais pas. Parce que je vois bien que certains illustrateurs sont dans une case, tu vois, la case pub, presse, je sais pas quoi, dessin éditorial ou dessin de presse ou bande dessinée. Moi, c'est transversal. Moi, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais peut-être que au fond, j'ai compris l'année dernière que c'était pas vraiment une histoire de style graphique, mais de ce que véhiculait mon dessin,
c'est-à-dire
ce petit côté une poétique, enfin sympa, sensible, tu vois, ce côté-là. C'est peut-être ça, là.
Mais je pense qu'on en a besoin. Ouais. On a besoin plus que jamais. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, genre le monde va pas bien.
Ouais.
Et je pense vraiment que c'est pas juste être naïf. Tu parlais de poésie, tu parlais de j'ai oublié. La corde sensible, la petite touche sensible. Et je pense que le cynisme, la critique, toutes ces choses, au final, ça fatigue quand même.
Bah, ça fatigue, mais toi, imagine que tu bosses, je sais pas moi, t'as un boulot hyper dur, j'en sais rien, flic, ou je sais pas, j'ai dit ça, mais n'importe quel boulot hyper dur, voilà. Et le soir, t'as un pote qui t'appelle et qui te dit on va boire un coup, on va manger ensemble. Tu dis quoi? Tu dis ouais. T'as envie de prendre un peu, te détendre, prendre. Ben mon illustration c'est ça moi. C'est tu vois.
C'est pour ça que ça marche.
Mais je sais pas si c'est pour ça que ça marche, mais c'est tu vois les mecs ils sont bombardés d'informations sinistres toute la journée, tout le monde quoi. Tu vois le chômage, les guerres, les réfugiés, enfin tout va mal quoi. Bon, y a plein de trucs qui vont bien, mais on est bombardés d'informations qui vont mal. Et à un moment, t'as envie de souffler, quoi. T'as envie de prendre un petit café, boire un coup avec un copain, te regarder un film, écouter une musique, écouter du Mozart, tu vois. Bah, moi, c'est ça, quoi. Moi, je suis le quart d'heure qui va apporter aux gens ce petit quart d'heure, cette pause, la pause dans leur journée, j'espère. Enfin, c'est pas évident, hein, mais c'est peut-être ça, mon truc, quoi.
Non, mais
mais ça s'est fait inconsciemment, hein. C'est pas calculé, quoi. C'est avec le temps que je me suis rendu compte de ça. Ouais. C'est en me faisant du bien, moi, je faisais du bien aux autres. Je me dis, ah, mais ouais,
exactement.
Mais ouais, mais c'est ça. Vas-y, mon vieux, vas-y, continue, quoi.
Ouais. T'as pas décidé d'être quelqu'un d'autre. T'as pas essayé de rentrer dans un moule, une autre case.
Non.
Alors, j'imagine c'est un long processus quand même, mais tu t'es accepté entre guillemets, si on peut parler en ces termes. Tu t'es accepté toi, et puis tu t'es rendu compte de ce qui te faisait du bien.
Oui.
Et t'as décidé de pleinement l'incarner.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Et ça fait du bien aux gens.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce qui génère des commandes.
Ben, je me demande, ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça,
De toute façon, comme on dit en anglais, tu sais, genre, gentleness is underrated. Genre, la gentillesse est... Parfois, je pars en anglais comme ça, et j'ai du mal à trouver les mots en français, mais... Je crois personnellement que la gentillesse, elle est pas bien comprise, notamment... c'est quelqu'un, on va lui dire genre t'as vu un tel ouais, alors c'était bien, ouais, elle est gentille,
oui, oui, je comprends, ouais.
Et alors que personnellement moi je suis vraiment contre ça, je suis pas d'accord, parce que la gentillesse c'est contre-culturel, ça te retourne le cerveau. Et je me souviens avec Madeleine, je lui avais acheté un livre qui s'appelait Petit éloge de la gentillesse, et c'était un essai un peu philosophique, historique aussi, sur un petit peu d'où sur la gentillesse. Et ça te démontre vraiment que la gentillesse, c'est pas du tout ce qu'on croit, quoi. C'est loin d'être naïf, en fait, la gentillesse.
Non, aujourd'hui, la politesse, la gentillesse, la poésie, c'est considéré comme des faiblesses. Mais chacun pense ce qu'il veut, mais personnellement, moi, je considère que c'est des forces. Être gentil, pour moi, ça n'a rien de péjoratif, quoi. C'est une force, quoi. Le mec est gentil, il a jamais de problème. Ouais. Même il fait du bien autour de lui, quoi. Ouais, bon, enfin, voilà. Alors, c'est sûr que de temps en temps, on m'attaque, tu vois. Ouais, bébé bisounours et tout. Mais c'est très peu, finalement. Très peu.
Et ça te fait quoi quand tu
vois? Rien, j'assume, ouais. Bah ouais, c'est bisounours, quoi. Et alors? Ouais, t'aimes pas les marmas papa, toi?
Ouais.
Ça te rappelle pas quand t'étais petit, les mecs méchants le soir, ils regardent les trucs de quand ils étaient jeunes à la...
C'est les plus gros émotifs, en fait, les gens
ouais,
méchants.
Ouais, ouais, ouais. Attends, c'est pas une faiblesse, la gentillesse ou la sympathie, la poésie, dire merci, c'est pas une faiblesse, quoi. C'est,
non.
Voilà. Pour moi, c'est des forces. Et même, ça nous rend, moi, je suis sensible, hein. sensible, mais c'est une force, la sensibilité. C'est une force.
De toute façon, pour être illustrateur ou artiste, enfin, je pense que la sensibilité, c'est une qualité super importante. Sinon, on serait des techniciens, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, bon, après, moi... non, parce que pour... tu vois, sur.
Enfin, être technicien, c'est une bonne chose aussi. Hein. Il faut de la sensibilité. Mmh. Pendant, je sais pas, t'es directeur de la photographie, bah, t'es aussi un artiste, en fait. Mais il faut de la technique. Mmh. Et donc, je nuance ce que je dis là quand même. Mmh. Mais. Je pense vraiment que la sensibilité, c'est ultra important.
Non, mais face à ça, t'as toujours des mecs. Moi, je reçois de temps en temps, je vois bien sur les réseaux des petites attaques, genre, bienvenue chez Bisounours, ou, le mec, il nous fait des fleurs alors que la panette, elle va péter dans 6 mois, tu vois. Face à ça, j'assume, quoi. Mais par contre, j'ai 10 fois plus de messages. Quand je te dis 10 fois plus, c'est 100 fois plus de messages qui disent, ah, ça me fait du bien, merci et tout. Je me dis, bah, j'ai raison, quoi. J'ai raison face à tout ça, enfin, en tout cas, j'ai raison pour moi, hein, après, dans l'absolu,
oui.
J'ai pas raison, mais je veux dire, pour moi, j'ai raison de continuer. J'ai aucune raison de faire autrement. Je me sens mieux là-dedans, et puis voilà. Hein, c'est. Mais attention, hein, faut le faire. Quand je dis, c'est pas stratégique, quoi. Faut le faire parce que tu le sens. Hein.
Oui, c'est cohérent avec qui tu es.
Mais oui, voilà, faut le faire avec le cœur. Hein, faut, comme tout, si tu veux que ça marche, faut le faire avec le cœur. Hein, faut pas. Faut que tu fasses les choses vraiment parce que tu le sens, quoi. Quand je dis bonne journée aux gens. Je le dis pas pour leur faire plaisir, je le dis parce que j'ai envie qu'ils passent une bonne journée, quoi.
Au final, quand tu faisais de la bande dessinée, c'était une sorte de fantasme, une sorte de rêve que tu avais envie d'accomplir. Mmh. C'était artistique, c'était expressionniste, c'était tout ce que tu disais. Mais au final, ça te tirait vers le bas et c'était peut-être pas ce qui bouillait vraiment à l'intérieur de toi.
Ouais. C'était une approche plus intellectuelle. Voilà. C'est-à-dire, bah, tu vois, l'expressionnisme allemand, Kafka, la littérature et tout, j'adore, tu vois, c'est, mais mon approche de mon métier de dessinateur de bande dessinée, c'est une approche intellectuelle. C'est-à-dire, je reproduisais des choses qui me touchaient intellectuellement. L'expressionnisme, mais après, ça correspondait à ce que je ressentais, mais, ouais, c'était intellectuel, je pense, quand même.
Et aujourd'hui, non?
Non, aujourd'hui, c'est le cœur qui parle.
Alors c'est super intéressant que tu dis ça parce que en préparant cette interview, t'imagines bien, j'ai un peu été, j'ai dit à ton blog, etc. Alors ton blog c'est génial parce que il y a tellement de choses dont on pourrait discuter. Mais je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué. Moi en tant qu'illustrateur, comme tu sais, j'aime beaucoup un peu de travailler le conceptuel. L'idée, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Réussir à synthétiser en une image claire, parfois des concepts un petit peu plus abstraits ou un petit peu plus compliqués. Puis c'est aussi la façon dont mon cerveau fonctionne, mais et donc du coup, pour moi, je considère que c'est une des choses que je préfère. Et pourtant, enfin, je devrais peut-être pas dire et pourtant, mais je disais sur ton blog à un moment donné, tu dis le conceptuel parle à l'esprit, mais les illustrations qui représentent un peu les situations de tous les jours parlent au cœur.
Oui.
Et est-ce que tu peux développer ça, quoi?
Ouais. Alors c'est-à-dire, ça c'est un peu un sujet un peu abstrait. Ouais, je disais qu'en fait, quand je commence une illustration, il y a trois questions que je me pose tout le temps. Bon, il y a deux questions d'ordre technique, graphique, bon, trait ou pas trait, voilà. Et il y a une image ouverte ou image fermée. Et la troisième question que je me pose, c'est image conceptuelle ou image, on va dire ce que j'appelle réaliste, c'est-à-dire assez proche de la réalité. Image réaliste, c'est tu représentes en gros les proportions comme elles sont dans la vie, donc. Et les perspectives en gros, quoi, hein, même si t'es un peu fantasque, mais globalement ça représente. Et l'image conceptuelle est vachement plus intello, quoi, qui fait appel à des métaphores, tu vois, tu peux faire des gens démesurés par rapport à des immeubles, voilà, on est un peu plus dans le conceptuel. Et là, je pense qu'on parle plus au cerveau des gens, parce que les gens vont faire le rapprochement entre quand je travaille pour Le Parisien, par exemple, je fais des images conceptuelles, c'est-à-dire je vais faire appel à des contes, à des clichés, des proverbes, des métaphores. Donc là, tu parles au cerveau. Les gens, ils ont des connaissances, ils ont des mécanismes. Ils vont dire, tu vas représenter un ogre. L'ogre, ça fait penser au conte et tout ça. Donc tu vois, tu parles au cerveau. Mais alors, je me suis un peu paumé dans mon explication là.
Non, mais c'était le conceptuel parle à l'esprit. Par contre, la situation de tous les jours parle au cœur.
Oui, alors ça c'est oui, alors c'est ça. Mais alors ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à ça, c'est que tu peux quand même faire des images conceptuelles, mais avec le cœur.
Vas-y, développe.
Voilà, c'est-à-dire si tu fais des images conceptuelles que tu fais parce que t'es passionné de, j'en sais rien moi, de contes ou de proverbes, ou parce que tu sens les choses. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment dur ça.
Ah ouais.
Tu me pousses en mer.
Ah, j'avais une plongée dans le cosmos là, les trucs voilà. Un peu ésotériques.
Non,
abstraits.
Ce que je veux dire, c'est globalement, tu peux tout faire avec le cœur, même des choses intellectuelles. Mais si c'est fait avec le cœur,
quand j'y ai. Non, mais parce que je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire que. Je crois, bon, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, c'est quand même 18 ans d'expérience, mais je sais que ce qui m'éclate le plus, et aussi où j'ai eu des retours aussi, que on me dit, t'es vraiment fort dans la conceptualisation, dans l'idée, et moi j'aime trop ça, en fait. Je vais pas me répéter, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'aime bien synthétiser, je sais que la façon dont mon cerveau fonctionne, j'aime synthétiser, simplifier, vulgariser des idées complexes, parce que j'aime bien les grandes idées, c'est la façon dont je fonctionne, les grandes idées un peu philosophiques, ésotériques, tout, des trucs qui sont difficiles à mettre des mots dessus, et de réussir à... Je peux pas le représenter par quelque chose de réaliste, parce que c'est pas une situation réaliste. Mais d'un point de vue... business, si je peux dire ça comme ça, je peux complètement concevoir que ça, on peut peut-être mieux gagner sa vie en parlant au cœur, parce que je pense que c'est quand on parle au cœur que on met la main au porte-monnaie d'une certaine manière. Et ce podcast, c'est aussi pour un petit peu discuter donc de des coulisses de nos métiers et de moi j'ai envie de savoir comment est-ce que les freelances et les illustrateurs et les autres créatifs que j'admire, comment ils ont fait. Et pour moi, tu es notamment une de ces personnes-là. Et je me demande si moi, du coup, en étant plus fort, entre guillemets, dans ce qui est conceptuel, est-ce que je me tire pas une balle dans le pied et je devrais, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, selon moi, je mets le cœur dans ces sujets conceptuels.
Non, parce que quand tu fais du conceptuel, t'as beau le faire avec le cœur, mais tu parles quand même au cerveau des gens. C'est ça. Après, tu peux faire du conceptuel et puis avec de la poésie dedans, pourquoi pas, tu vois?
Ouais.
Pourquoi pas?
Moi, c'est ce que je veux faire.
Il peut y avoir de la poésie, hein, mais la façon dont t'abordes une illustration de façon conceptuelle, de toute façon, tu parleras d'abord au cerveau des gens, parce que pour comprendre, pour comprendre des jeux de mots ou des jeux graphiques, ou c'est le cerveau qui va d'abord analyser. Mais ça n'empêche pas que ça peut transparaître là-dedans de la poésie, du rêve. Bien sûr, tes illustrations, elles sont pleines de rêves. Elles sont conceptuelles. Et il y a du Matisse, là. Il y a vachement de rêves dans ton boulot. Pas du Matisse, du Magritte, pardon.
Aussi, ouais.
Il y a aussi.
Le surréalisme.
Les deux, d'ailleurs.
Oui,
les deux.
Matisse, c'était dernièrement.
Matisse,
tu m'avais
dernièrement,
parlé.
Ouais. Voilà, tu vois, par exemple, Matisse, Magritte, c'est conceptuel. Mais derrière, il y a de la poésie, du rêve.
Ouais.
Tu vois? C'est pas incompatible. Même si, tu vois, je pense quand même que Magritte parle au cerveau des gens, mais il en profite pour...
Après, c'est sûr que si on te commande une campagne sur l'eau ou sur un fonctionnement dans une entreprise, on va pas te demander d'être conceptuel.
Ouais,
quoi.
Voilà,
il faut être factuel, il faut des gens dans des bureaux.
Et puis après, rien n'est tout blanc, rien n'est tout blanc.
Non,
c'est pas soit t'es conceptuel à 100%, soit t'es...
Ouais, ouais,
tu peux trouver un juste milieu. Enfin, ce qui me semble important de toute façon là-dedans, c'est de faire les choses comme tu le sens vraiment. Tu vois, c'est ça qui me paraît évident avant tout. Quoi.
Ouais. Non, mais... En fait, c'est marrant parce que j'avais cette question, mais je comptais pas te la poser, en fait.
Oui.
Je me disais, c'est un truc un peu perso, etc. C'est peut-être un petit peu trop intello, machin. Mais vu que t'es venu sur le terrain, je me suis dit, je vais lui poser la question quand même. Mais oui, on n'est pas obligé de s'attarder.
Non, mais après, puis de toute façon, je tiens pas la vérité. Hein. Je parle pour moi. Hein.
Non, c'est sûr.
Ce que je vais te dire, tu vas recevoir un mec demain, il va te dire tout le contraire et ça sera aussi valable.
Oui, mais c'est pas le mec de demain que j'ai invité ce soir. C'est toi.
Ouais.
C'est toi que. Et je vais changer un petit peu de vitesse là.
Ouais.
Je sais pas si ça se dit en français. En anglais, ils disent I'm gonna switch gears here.
Vas-y.
C'est parce que j'écoute des podcasts en anglais. Dans ton, je reviens un petit peu au début, ta période, tu te rends compte que tu veux plus travailler dans l'électrotechnique, passage par la bande dessinée, vers l'illustration, sur ton blog, il y a un article intitulé genre trois façons de se planter ou un truc comme ça, et tu décris un peu ton parcours en Dancy, et tu cites notamment un petit livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec, qui t'a beaucoup marqué apparemment, et Je serais très intéressé que tu me dises un peu pourquoi est-ce que ce bouquin t'a parlé, voilà, avec un regard sur ta carrière, quoi.
Oui. Alors, moi, je pense que le mot échec est un peu fort, hein, mais en France, en tout cas, j'ai pas l'expérience de l'étranger, mais il me semble que les pays anglo-saxons considèrent pas l'échec comme quelque chose de pénible ou désagréable. En France, oui. C'est ça qui développe Charles Pépin dans son livre. Il te dit qu'en France, dès que tu te plantes, t'es mauvais, quoi. En gros, c'est dans l'inconscient collectif, c'est ça. Et en réalité, non. Quand tu te plantes, en réalité, tu progresses. Bon, si tu te plantes tout le temps, c'est difficile à vivre. Mais c'est difficile à vivre parce que tu décides que c'est difficile à vivre. Si tu décides que c'est pas difficile à vivre, bah tu te plantes et tu recommences, quoi. Quand on apprend à marcher, on tombe sans arrêt, quoi. Et on se plante, c'est autant d'échecs, et au final, on marche. Quand on parle, c'est pareil. Quand on apprend à parler, bah, quand on fait de l'illustration, c'est pareil. Quand on fait n'importe quoi, dès qu'on entreprend quelque chose, bah oui, évidemment, il y a le risque de se planter. Si tu bouges pas, tu tombes pas. Tu vois? Je pense qu'il faut se planter. Il faut se planter. C'est désagréable. C'est hyper désagréable. Et en même temps, quand tu sors de là, t'en sors grandi, mais à chaque fois. Donc, j'ai eu trois gros plantages, on va dire. Ou deux, je sais plus, trois. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon blog?
Ah, c'est ton blog, hein. Moi, je sais pas.
On va dire deux ou trois, ouais.
Je pense que tu disais, ton premier plantage, c'était l'électrotechnique.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire, tu fais des études, tu fais un BTS, on te fait croire, moi, un BTS électrotechnique, on te fait croire que tu vas bosser là-dedans, toi, t'es convaincu, t'es bon en maths, en physique, tu sors de ton BTS, tu trouves du boulot, tu commences à bosser, tu gagnes ta vie, tu commences à grimper. Et puis tu te rends compte, mais non, c'est pas toi ça, t'es pas à ta place mon vieux là, qu'est-ce que tu fais là? Et là tu te dis, mais je me suis planté là, ça fait 15 ans que je me plante, que je crois que je suis à ma place, et là tu te prends une claque, quoi. Là tu te dis, ah ouais, ça fait 15 ans que je bosse là-dedans, que j'ai fait mes études là-dedans, et là tu te dis, bon bah ok, je me plante, je fais autre chose, tant pis, quoi. C'est désagréable, hein, c'est hyper désagréable, hein. Donc je change, je deviens un vieux rêve d'enfant, dessinateur de bande dessinée. J'y arrive, donc au bout de quelques années, je fais quelques albums et tout. Et là tu te dis, ah ouais, super, c'était ça ma voix. Puis tu te rends compte au bout de quelques années que non, tu t'emmerdes. C'est pas ça ton truc, tu te fais chier, ça t'emmerde la bande dessinée. Ça, tu prends pas ton pied, à côté tu fais des boulots de commande et tu t'éclates plus. Tu vois, c'est quand même étonnant. Mais là, par contre, c'est pire parce que c'est un rêve d'enfant là, qui vole en éclats. T'as toujours voulu faire à hauteur de bande dessinée, tu l'es. De quoi tu te plains, tu vois? Et là, deuxième grosse claque. Tu dis, ah ouais, non mais je vais arrêter. Donc tu considères, au départ, tu considères ça comme un échec. Puis au bout de 6 mois, tu te dis, mais non, mais c'était pas un échec. C'était une étape vers l'illustration. Et l'illustration, où là, je m'éclate vraiment. Jusqu'à quand? Je sais pas. Mais je suis sur mes gardes maintenant. Tu vois, je me dis, si demain, vraiment, je sens que je m'emmerde ou que j'ai plus la passion. Je considérerais pas ça comme un échec, je considérerais ça comme une étape. Voilà, vers autre chose. Et à chaque fois, j'ai été plus heureux. À chaque fois, je t'assure, hein. Tu te prends 6 mois de dépression, de claque dans la gueule et tout ça. Et 6 mois après, quand tu ressors de là, eh ben, t'es grandi, t'es heureux. Quand tu discutes avec les gens, ils te disent, ah, t'as du bol, toi. Et ouais, j'ai du bol, hein. C'est vrai, hein.
Ils savent pas ce que t'as vécu derrière.
Bah ouais, bon, après j'ai du bol parce que tout le monde ne peut pas. Tout le monde n'a
oui,
pas la
niaque,
pas
quoi, quelque
voilà,
chose
où il y a des gens malades et ouais. Tout ça, donc ils peuvent pas. Donc j'ai du bol. Mais si tu veux, c'est nécessaire les échecs. Mais tu sais, les échecs, mais c'est tous les jours, hein. Tu envoies des trucs, les mecs ils te disent c'est naze ce que tu fais, quoi. Ou non, tu recommences. Quand je faisais de la bande dessinée, j'ai balancé 30 ou 40 projets de bande dessinée d'albums. À chaque fois, ça revient dans la tronche en te disant « Non, c'est pas bon. » Ou des fois, ils te répondent même pas, tu vois. Et ça, c'est des échecs, tout ça. Mais en réalité, c'est pas des échecs. C'est autant de fois que t'as essayé jusqu'au moment où tu y arrives. Voilà, c'est très sportif, en fait, comme approche, tu vois. Je pense que les mecs qui font du haut niveau en sport, ils en sont là.
Est-ce que dans ton entraînement sportif, tu as développé des réflexes, est-ce qu'il y a une certaine philosophie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à pas, j'ai pas envie de dire de t'endurcir parce que c'est pas le
non,
terme
pas ça,
que je veux utiliser, mais qui t'ont rendu plus, tu disais tout à l'heure que t'étais pas très endurant, mais en fait t'es endurant quand même, et qui te permettent de tenir sur la durée, quoi, quelque part. Ouais. Dans les moments difficiles, qu'est-ce qui, dans les moments d'échec avec des gros guillemets, où tu te rends compte que tu t'es planté, qu'est-ce que tu as développé pour tenir sur la durée?
Ah oui, alors moi je fais plein de théories, hein, tu sais.
Allez,
on
va
parler, vas-y. Je te balance la théorie de la chaise.
Ah oui.
Cette théorie là parce que ça m'aide vachement en fait, hein.
Ouais.
Donc là j'ai une théorie, moi c'est j'appelle ça la théorie du tabouret. Ouais. Donc en fait tout est une histoire d'équilibre, je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis moi j'ai le tabouret à trois pieds, non, toi. C'est je suis assis sur le tabouret et je suis bien assis. Et c'est il y a trois pieds, donc si tu retires un des pieds, bah ça se casse la gueule. Si tu raccourcis un des pieds, bah ça se casse la gueule. Donc en gros, il faut que trois pieds. Et donc les trois pieds pour moi c'est ma passion, donc l'illustration. Le deuxième pied c'est la famille, mes enfants, ma femme et tout ça. Et le troisième pied c'est les autres passions qui sont extérieures au monde professionnel de l'illustration et de la famille. Donc le sport, je fais un peu de sport. Et ces trois mondes-là sont presque comment dire, ils sont séparés les uns des autres, mais en même temps, ils existent que
ensemble.
Ensemble, voilà, c'est
ils sont intimement liés.
Voilà, c'est ça. Donc, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille. J'ai besoin des vacances. J'ai besoin d'aller au resto avec eux. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être avec ma femme. J'ai besoin de faire mon métier, de dessiner, de créer. Quand je suis en vacances, je crée un peu. Voilà, j'ai besoin quand je suis crevé d'aller à l'escalade ou faire du vélo, ou voilà, j'ai besoin de ça. Et si tu me retires un des trois pieds, je vais me casser la gueule, c'est pas la peine. Donc c'est pas la peine que j'essaye de travailler plus en faisant moins de vélo ou en faisant moins de famille, parce que je vais me viander. Voilà. Et ça permet aussi, quand t'as un truc qui déconne un peu, par exemple, quand t'as le moral en berne en illustration, bah tu vas à l'escalade, tu vas retrouver les potes de l'escalade. Les potes de l'escalade, t'as un douanier, t'as un informaticien, t'as une prof, et t'es ailleurs, quoi. Tu vois qu'ailleurs, il y a un autre monde possible. Et ça fait du bien, tu vois. Et après, tu reviens dans l'illustration et tu te dis, non, mais pourquoi j'avais le blues, tu vois. Et c'est pareil dans les trois domaines. C'est une sorte d'équilibre, voilà. Ouais, moi, c'est trois pieds, mais genre, c'est peut-être quatre ou cinq, j'en sais rien. On en parlait tout à l'heure. On a chacun assis sur une chaise avec plusieurs pieds. Il y a des gens qui sont assis sur un pied, ça leur suffit. Il y a des gens qui passent leur vie. Je vois parmi les gens que je suis dans les illustrateurs, il y a des gens ils passent leur vie à faire ça, quoi. C'est leur vie. Hein. C'est tout est là, quoi. Tout est dans l'illustration. Mais moi, je peux pas.
Et c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde.
Non.
Parce que je sais moi que il y a des gens qu'on peut admirer. Et qui sont des je sais pas, ils font des illustrations en oblique, en mode pointilliste, et ils font leurs illustrations, c'est pas des illustrations, c'est des cathédrales, quoi, c'est magnifique. Mais je me souviens, je disais, mais oui, mais bon, si moi je restais dans ma chambre pendant 3 ans à juste dessiner, c'est sûr que potentiellement, alors c'est pas sûr, mais il y a des grandes chances que je m'améliore quand même,
oui,
drastiquement dans ma technique et dans mon travail. Mais je sais que moi j'ai vraiment vraiment besoin. Ben un peu comme toi, moi je sais que je pense que je dois sûrement avoir une sorte de tabouret à trois pieds aussi, où moi il y a ma femme et mon fils là depuis 7 mois là, j'ai un petit garçon. Donc ma passion de l'illustration aussi, comme toi, je suis un passionné. C'est vraiment quelque chose de, presque qui me dépasse en fait. C'est une quête insatiable que j'ai besoin de mener de front à temps plein tout le temps. Et aussi je suis très attaché aux gens, je suis très relationnel. Et je pense que si j'ai pas ça, honnêtement, je déprimerais, quoi. Ça n'irait
bien
pas.
Sûr. C'est évident.
Et c'était une de mes questions, mais en fait, tu y as déjà répondu. Mais je sais que nous, en tant que freelance, on a une tendance à potentiellement être un petit peu obsédé par notre boulot et constamment y penser. Et même quand tu fais l'escalade, du vélo, que tu es avec ta femme et tes enfants, c'est quand même, j'imagine, là, à l'arrière de ta tête.
Oui, c'est toujours là, mais
c'est vital quand même.
Ouais, c'est vital, ouais. Mais tu vois, par exemple, l'escalade, c'est pas un hasard, hein. C'est pas un hasard, hein. Parce que autant, tu vois, la natation ou le mec qui court, moi, j'ai essayé ça, hein. En fait, je nageais, mais je continue à cogiter, quoi. C'était pas possible, quoi.
Moi, je cogite toujours quand je nage.
Voilà. Bah, écoute, fais de l'escalade. Tu vas arrêter de cogiter. Parce que, parce que à partir du moment où tu commences à mettre le pied dans l'escalade, il y a des histoires de sécurité. Et tu remets ta vie entre les mains d'un autre mec. Et toi, t'as la vie de l'autre dans tes mains, quoi. Si tu lâches, le mec, il tombe et il meurt, tu vois.
À ce moment-là?
Ben oui.
Non, mais.
Non, mais je t'assure.
Tu joues ta vie toutes les semaines.
Bah, tu joues pas ta
vie. Je connais rien en escalade.
Ouais, ouais. Non, mais tu joues pas ta vie parce que tu tombes. Ouais, je fais de l'escalade en salle, hein. Mais si tu fais ça en falaise, une chute et c'est réglé, quoi. Hein. Mais ça arrive tous les ans, hein. Voilà. Donc, en gros, il y a des histoires de sécurité, il y a des histoires de concentration, de. Donc, tu passes 10 minutes. J'arrive le lundi soir à 20h. À 20h05, j'ai oublié tous les problèmes, quoi. Tous les problèmes de famille, tous les problèmes professionnels. Et je ressors de là-dedans à 10h30, lessivé, et te dire, ah ouais, mais en fait, ces problèmes, c'était pas des vrais problèmes, quoi. T'es passé pendant 1h30, 2h à autre chose, quoi. Mmh. À te concentrer sur...
Tu prends du recul et la perspective, du
mais
coup.
Mais oui, tu te concentres sur là où tu vas mettre ton pied, parce que si tu mets ton pied à côté, tu te casses la gueule, quoi. Ouais. Bon. Il y a des sécurités, donc tu tombes pas. Est-ce que le mec en bas, il t'assure? Mais si tu veux, c'est...
Vivez dangereusement et vous aurez l'esprit plus tranquille.
Oui, alors après, c'est pas dangereux si tu fais attention à ce que tu fais. Si tu fais attention, si t'as confiance en l'autre. Si tu te concentres, c'est pas dangereux. Mais ça fait partie des sports à risque, tu vois. Donc, il faut que tu te concentres. Tu peux pas cogiter, en fait. C'est impossible. C'est l'instant présent. Tu vois, c'est une forme de méditation, comment on appelle ça.
À pleine conscience.
Pleine conscience, voilà. T'elle arrive, t'es obligé de te concentrer sur la façon dont tu fais le nœud, tu vois. Parce que si tu fais mal le nœud, bah, tu tombes. Tu vois. Donc, il faut que tu te concentres sur la façon dont tu fais ton nœud. Il faut que tu te concentres sur ce que le mec, il fait en face de toi. Parce que si tu regardes pas et que tu lâches le mec au moment où il fait un geste, voilà. Bah, il tombe, donc t'es obligé. T'es dans l'instant. T'es dans les... Voilà. Donc, c'est pas un hasard, l'escalade. C'est pas un hasard pour moi, l'escalade. C'est... Voilà.
Je trouve ça intéressant. Moi, je sais... Alors, je suis pas très sportif. Je dirais que le seul sport que je fais, ou devrais-je dire faisais, parce que j'y suis plus allé depuis 8 mois, depuis que je suis devenu papa, donc, c'est la natation. Et je pense que j'aimais bien, justement, le fait que si je suis dans l'eau, je peux pas en sortir pour aller écrire un truc, ou aller dessiner quelque chose, ou pour... enregistrer quelque chose, je suis obligé de rester dans l'eau et faire mes longueurs. Mais j'ai comme une sorte de plaisir à mariner, justement, je peux utiliser ce terme, à mariner dans mes réflexions. Ouais. Mais j'avoue que pour peut-être déconnecter le cerveau, parce que en tant que freelance, en tant qu'illustrateur, j'y pense énormément.
Ah oui, oui.
Mais tant mieux, parce que je me dis que si je faisais un métier dont je m'en foutais,
Ouais.
Voilà quoi. Mais donc, si on revient à ta métaphore du tabouret, les activités à côté, ça te permet vraiment de déconnecter.
Ouais, mais tu vois, ça peut être, enfin moi c'est l'escalade, mais il y a des gens, ça peut être la poterie ou le puzzle, j'en sais rien, enfin le macramé, la cuisine. Quand tu cuisines, tu coupes des légumes. Moi, j'adore cuisiner. Tu coupes des légumes. Pendant que tu coupes des légumes, tu penses à rien, tu vois.
C'est vrai.
Ouais, ou la musique, tu peux faire un instrument de musique, tu vois, c'est pas mal aussi la musique, ça. Ouais. Tu te concentres sur un truc. Bon, moi, c'est pas mon...
Non, moi non plus, je suis...
Voilà, je suis un amateur, mais je suis pas un... Faire de la musique, c'est pas mon truc, quoi. Mm-hmm. Enfin, voilà. Donc, c'est une histoire d'équilibre, encore une fois. Ouais, c'est... D'accord. Je trouve mon équilibre là-dedans et c'est vraiment indispensable. Et tu le comprends, hein, parce que ça m'est arrivé déjà d'empiéter sur l'un ou l'autre parce que trop de boulot, alors tu vas moins au sport. Et puis, tu rends compte au bout d'un mois que... Bah, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout, là. T'as le moral en berne. T'es pas bien. Tu fais chier tout le monde. Voilà, tu vois. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as pas été au sport, c'est tout. Mmh. Voilà.
Donc, il faut garder une certaine.
Et il faut trouver ton équilibre.
Qualité de vie, mais spécifique à nous-mêmes, pour nous permettre de continuer à être efficace professionnellement.
Exactement.
D'accord.
Et c'est sûr, des fois, tu cogites sur une illustration, tu trouves pas d'idée, t'as passé la journée à chercher une idée, tu la trouves pas. Tu vas au sport, tu reviens, et hop, l'idée, parce que le cerveau, il est bien foutu.
Le cerveau, il est super bien.
Parce que inconsciemment, ton cerveau, il bosse. Tu vois, pendant que tu vas faire du vélo ou l'escalade.
Même quand on dort, il bosse.
Ben, bien sûr. Donc, tu y penses plus, mais par contre, ton cerveau, il est intelligent et il bosse. Mmh. Le croquis, c'est bien aussi pour ça. Quand tu vas au musée, tu fais des croquis. Moi, je fais des croquis, j'aime bien. Pendant que tu te concentres sur ce que tu vois, bah, tu penses pas à tes problèmes, à l'idée que tu dois trouver que tu ne trouves pas.
Est-ce qu'on pourrait dire que faire des croquis pour toi c'est une sorte de méditation?
Exactement.
Non mais parce que j'avais aussi une sorte, c'était pas une question que je voulais vraiment te poser, mais c'était une question bonus si je puis dire. Mais moi je sais que j'ai un besoin incroyable d'avoir un sens dans tout ce que je fais. Je suis motivé par le sens. Un truc qui n'a pas de sens pour moi, bah, et du coup. Je vais dessiner parce qu'il y a un but derrière. Et si le but, c'est juste m'entraîner, ça va pas être suffisant pour me mettre le crayon dans la main et dessiner, tu vois. Oui. Alors quand je suis en vacances et tout, ça m'arrive de dessiner, hein, c'est pas ça. Hein. Mais pas autant que toi déjà, parce que je le sais, objectivement, je sais que quand je vois tes carnets de croquis et tout, tu dessines beaucoup plus que moi. Mais du coup, c'est intéressant parce que ton approche, c'est comme si tu continues de t'exercer tout en déconnectant ton cerveau de l'obligation professionnelle au final.
Oui,
c'est de la méditation, enfin.
Oui, ouais. Ben en fait, j'ai mis longtemps à comprendre ça aussi. Hein. Tu vois, je sais pas si t'as dû le lire, j'imagine, mais j'ai fait un article sur le croquis en fait dans mon blog. C'est au début, je trouvais ça chiant. Hein, je te dis, hein, ça me prenait la tête. J'avais pas quoi croquer. Moi, je voyais les copains, ils avaient des carnets de croquis magnifiques. Et puis moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais dessiner je trouvais que rien n'avait un intérêt en fait. Tu vois, je trouvais que pourquoi tu vas croquer alors qu'avec ton téléphone tu fais une photo en 5 secondes, c'est capté quoi, tu vois. Et je me faisais chier, je t'assure, dans la rue, mais il fallait croquer, tu vois. Il paraît que ça fait évoluer tout ça, donc je croquais, mais bon,
tu peux crâner sur les réseaux sociaux avec.
Ouais, voilà, en plus tu frimes et tout, les croquis et tout. Non, en fait j'ai commencé à prendre plaisir à faire des croquis le jour où j'ai compris que il fallait pas qu'il y ait un but. Et quand je suis allé en vacances en Grèce, j'ai commencé à me dire que j'avais envie de montrer une certaine idée de la Grèce, pas ce que je voyais, mais plus j'interprétais un peu. J'interprète dans mes croquis, j'interprète. Je représente pas fidèlement la réalité. Ça m'intéresse pas. Je vais te prendre un bâtiment, je vais commencer à le croquer, et puis tout de suite. Ça va partir, je vais te rajouter un truc qui a rien à voir, un palmier que j'ai vu à droite, une bagnole que j'ai vue derrière. En fait, je recompose, si tu veux. Donc les gens qui voient ça, ils disent « Ah ouais, il a croqué d'après nature. » Mais pas tellement en fait. Et là, au final, les gens, ça donne une idée de la Grèce, une idée de la Turquie, une idée de je sais pas quoi, de la forêt. Mais c'est pas vraiment la forêt, quoi. C'est comment moi je l'ai imaginé en la regardant. Et là, je commence à prendre du plaisir là. Et c'est je sais pas si je suis clair en fait.
Si. Non, mais du coup, c'est la quête du plaisir au final.
Voilà, c'est ça.
De la paix.
Oui.
En fait, quelque part, en t'écoutant, je me rends compte que faire quelque chose, ça paraît bête, hein, ce que je vais dire, mais faire quelque chose juste pour le plaisir, c'est reposant.
Ben, c'est reposant, ouais.
Et
oui, parce que pour le coup. Là, en ce moment, je fais des séances de croquis au Louvre. Je vais ils ont un département des arts de l'islam et puis les antiquités grecques. Et c'est fou, mais toutes ces antiquités là, c'est rempli de motifs graphiques. Tu vois, c'est de symboles, de plein de trucs incroyables. C'est hyper riche graphiquement, tu vois. Je m'en étais jamais rendu compte. Et du coup, je vais faire des croquis. Je te croque des je sais pas quoi, des assiettes turques avec des oiseaux là-dedans, des fleurs et tout ça, mais c'est hyper graphique quoi. Et de copier ça, bah écoute, ça me fait un bien fou quoi. C'est fou hein, c'est
ouais.
Voilà. Et alors j'interprète, c'est pareil, je vais pas te représenter l'assiette telle qu'elle est, mais je vais te prendre une fleur qui est là, un dauphin qui est là,
Claude, ouais. Les fleurs, les dauphins, c'est pas un peu bisounours tout ça?
Si, c'est un peu bisounours.
Cool. Ouais. Un petit peu le mot de la fin. Si tu devais donner un conseil à un jeune illustrateur ou illustratrice qui aimerait peut-être aller un peu dans la même voie, ce serait quoi?
Alors, il faut qu'il soit passionné. Voilà, c'est ça mon conseil. Le vrai fond du truc, faut que t'aies la passion. Quoi. Si t'as pas la passion, tu pourras faire ce boulot. Hein. Mais tu vas te galérer, tu vas te faire chier, ça va être dur, ça va être pénible. Et si t'as pas la passion, et tu le sais si t'as pas la passion, tu le sais, moi je crois qu'on le sait. Parce que je veux dire, quand je vois des étudiants hein, dans des forums où ça m'arrive, je vois tout de suite ceux qui sont passionnés. Je vois quand ils me parlent, la façon dont ils me parlent, la façon dont... Et je vois ceux qui veulent faire ce métier-là pour de mauvaises raisons. Parce que ça les fait rêver tout ça, mais au fond il y a pas, et derrière il y a rien.
Il faut la niaque.
C'est pas que la niaque. La niaque, elle vient parce que t'as la passion. Si t'as pas la passion, t'auras pas la niaque.
Ouais,
tu vas vite abandonner.
D'accord.
Tu vas trouver ça chiant. Et il faut être passionné. Il faut être passionné. Ouais, c'est. Et tu le sais. Hein, et ça tombe par hasard dessus, en gros. Hein, ce que je te disais. Hein, c'est peut-être une faille chez toi qui fait que tu seras passionné ou Mais si t'as pas la passion, t'iras pas loin. C'est voilà, parce que tu prends des gamelles sans arrêt, donc tu vas te fatiguer rapidement. Hein. C'est voilà. Et puis après, il y a un tas de conseils pratiques. Hein.
Mais pour ça, vous pouvez aller voir le blog de Claude.
Voilà. Il y a une liste de 50 conseils. Dis bonjour la dame. Essuie-toi les pieds en rentrant.
D'ailleurs, en parlant de blog et ce genre de trucs, où les gens peuvent-ils retrouver ton travail?
Bah, sur mon site, claude-illustrateur.com, .fr, .fr. Ouais.
Simple, efficace.
Voilà, et puis après, bah, sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, LinkedIn, plus sur Instagram quand même, parce que c'est de l'image. Voilà, mais surtout sur mon site. Hein.
D'accord, voilà. Cool. Ben, merci pour ton temps, Claude. C'était super agréable.
Ben, avec plaisir. Hein. C'était super sympa de partager ce moment avec toi.
Ouais.
Et puis, écoute, j'ai hâte d'écouter ça en podcast.
Ouais, je sais pas encore quand ça va sortir, mais j'ai trop hâte aussi que ça sorte. Donc, merci beaucoup, Claude. C'était top. Merci.
Ok.
C'était ma discussion avec Claude. J'en garde un excellent souvenir. Donc Claude, merci encore à toi. Si cette interview vous a donné envie de découvrir son travail, n'hésitez pas à visiter son site internet et à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est très actif sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Claude est partout. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de cet épisode, puis mention spéciale pour son blog auquel j'ai fait quelques références pendant cette interview. Son blog fourmille d'informations, de conseils, de réflexions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si vous aimez la lecture, allez y jeter un petit coup d'œil, ça en vaut vraiment la peine. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. J'espère que ce petit son électro-pop bidouillé vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup et je lui en suis vraiment reconnaissant. Allez suivre Adrien sur les réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou sur sa page SoundCloud. Il y a plein de belles choses à écouter. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram majoritairement, mais j'utilise aussi Twitter, Facebook, n'hésitez pas à me rajouter en ami, à vous abonner sur Apple Podcasts ou n'importe quelle autre application de podcast et à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Et si vous n'avez pas le temps pour ça, vous pouvez toujours liker ou partager cet épisode. Ce podcast est tout nouveau, donc il a besoin de vous pour grandir. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des réflexions ou juste pour dire bonjour, n'hésitez pas à m'écrire à jeremy@jeremy-kleiss.com. Mon adresse est aussi dans les notes de cet épisode. Donc voilà, écrivez-moi, n'hésitez pas. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et en attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.